Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en juin 2024 et vous écoutez les Jeux du Mois, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle des jeux de société. Je suis Mad, et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec celle qui interviewe avec le même enthousiasme un gagnant de l'âge d'or ou sa propre famille, celle qui excelle dans le rôle de Madame Loyale dans les dossiers, celle qui n'hésite pas à pousser la chansonnette à l'occasion après le générique de fin, celle qui a depuis quelques jours un nouveau pseudo sur Discord qui se termine par Choukroutovla, celle qui est surtout connue et reconnue, pour sa chronique « Dessine-moi un plateau », chronique qui depuis deux saisons nous initie avec pédagogie et talent au décryptage des illustrations de nos boîtes de jeux, vous avez bien entendu reconnu la passionnée et passionnante Elodie. Bonjour Elodie.
Oh là 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 là, salut Matt, mais quelle... Là j'ai... Ouf! Je sens que je rougis, mais moi je suis avec la passionnante Matt. Bah non, t'en as même dit beaucoup beaucoup là, c'est trop, c'est adorable.
Bon, alors si vous voulez savoir d'où vient le pseudo de Choukroutovla, je vous invite à écouter, si ce n'est pas encore fait, petit coquinou, le « T'as joué à quoi de, » du week-end proxy jeu, et vous aurez toutes les explications de ce nom mystérieux.
C'est vrai qu'on a eu une partie épique, et c'était assez incroyable ce jeu. Allez écouter, vous m'entendrez dire beaucoup de gros mots lors de ce retour de jeu et de partie.
Et donc pour commencer cette émission, nous allons remercier les donateurs et donatrices sans qui nous ne pourrions faire ce podcast et raconter des bêtises au micro. Nous remercions Grovast, Hervé Rosset, Sam Chakit, Diogo, Delotte, Chinou, Pogman, Chacado, Caucase. Est-ce que tu veux continuer ?
Bah oui, donc Mathieu, Calhervé, Bobby Fada, Nico Como, Dr Che, Deckmoon, Frédéric et Altaripa. Et c'est marrant parce que maintenant, j'ai des visages devant certains de ces pseudos. C'est très chouette, je trouve, depuis le week-end, comme toi, t'avais dû l'avoir l'année dernière. Et je trouve ça cool d'avoir... Il y a les visages qui viennent devant les pseudos. Merci à vous tous et toutes.
Ça crée du lien à travers micro interposé et écouteurs, casques, slash ordinateur. Vous qui écoutez nos émissions, maintenant, on sait qui vous êtes. On voulait également remercier la caverne du Gobelin. Alors les Gobelins, on les connaît un petit peu moins personnellement, j'avoue. Mais en tous les cas, ils nous soutiennent. Les gens de la caverne du Gobelin, eh bien, ce sont 6 boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt. Et la plupart sont équipés d'un café-jeu.
Mais c'est surtout une boutique de vente de jeux de société en ligne sur cavernedugobelin.com. Et maintenant, on va faire les retours sur les commentaires de l'émission précédente, qui étaient les Jeux du mois de mai, donc présentés par Cargo, qui nous parlait de chronologique, et le Pionfesseur, qui nous parlait d'Unbox. Alors, il n'y a pas beaucoup de commentaires, il y en avait 4. Donc déjà, l'Acariate qui félicitait nos deux acolytes et ce beau duo qui fonctionnait à merveille avec des belles analyses qui leur ressemblent. Ensuite, on a un commentaire de Berdou, qui dit qu'il a adoré Unbox, qui lui a trouvé un défaut, c'était aussi de dire que quand il avait faux, eh ben, on n'avait pas juste le truc faux, mais on avait tout de suite la réponse, donc ça nous empêchait de retenter l'expérience, et, mais que ça aurait été très compliqué de faire quelque chose d'autre à part de faire une appli un peu complexe. Il dit aussi qu'il répond à la question de Cargo à la fin sur les jeux qu'on pourrait tenter de deviner comme ça. Et il lui vient deux trucs en tête, que le passe-temps avait tenté des vidéos, il donnait un jeu à plusieurs groupes et qu'il devait tenter de deviner de quoi ça parlait, et que ça marchait pas très très bien. Et qu'il aimait aussi faire ça sur BGA, où il lance des parties sans rien connaître du jeu et d'essayer de comprendre comment ça marche par lui-même. Moi je tenterais
oui,
pas,
monsieur
voilà,
joueur,
monsieur
est
joueur,
même.
Parce que moi sur BGA je tenterais pas de faire ça, j'aurais trop peur de me faire incendier par les autres joueurs et joueuses.
Ouais, moi généralement un nouveau jeu sur BGA que je fais pour la première fois, j'essaie de voir s'il y a un mode solo, pour que justement je puisse me familiariser avec les différents gestes techniques, enfin quand je connais pas le jeu quoi, où est-ce que je vais aller chercher mes cartes, où est-ce que je vais les mettre.
Ensuite on a Thibaut qui parle d'un podcast très diégétique, qui trouvait que c'était intéressant... Les deux jeux lui paraissaient sympas, mais il rejoint Cargo sur le fait qu'ils doivent être durs à sortir avec des joueurs occasionnels. Et il nous a découvert récemment et il apprécie nos analyses. Donc, il nous félicite pour notre travail et nous dit de continuer. Ben, merci beaucoup Thibaut. Et oui, on va continuer, hein. Enfin, c'est prévu.
Oui, puis bienvenue et bienvenue sur nos antennes. Voilà, on est ravis de t'accueillir.
Et enfin, il y avait Bartouf qui dit que chronologique, ça donne à la fois envie et pas envie. Et on sent que c'est complètement abstrait, rien qu'au nom des personnages. Et Unbox, par contre, ça donne encore plus envie avec cette émission. Et il en avait entendu parler. Et il aime bien l'idée que le jeu soit un peu bancal, mais que ça ne l'empêche pas d'être intéressant à jouer. Il trouve que Micro Macro est un peu comme ça aussi, bancal, mais hyper attachant, car il tente un truc. Super émission, merci. Et ben, merci à vous pour ces commentaires. Toi, t'avais joué à ces deux jeux ?
Justement, j'allais te poser la même question, parce que Unbox m'intrigue un petit peu. Enfin, j'étais très intéressée par les explications de Purfesseur, et puis son enthousiasme aussi faisait plaisir à voir, parce que ça a vraiment eu l'air de l'enthousiasmer beaucoup. Donc je suis un peu curieuse de voir comment ça joue. Chronologique, oui, j'y ai joué. J'ai eu en festival, j'ai croisé Johan Levé qui en venant au festival a écouté la chronique de Cargo et était ravi de la façon dont il avait parlé du jeu. Donc ça c'est plutôt chouette.
Bah, ça fait un commentaire de plus à rajouter dans la besace du coup.
Tout à fait, à l'oral. Mais c'est un auditeur fidèle, hein, Johan Levé, de nos émissions. Donc, merci à lui. Ouais. Et Unboxed, alors, tu y as joué ?
Oui, moi j'ai fait la moitié de la boîte. J'avais joué deux manches à Essen, enfin deux des scénarios à Essen. J'y rejoue au Festival de Valence parce que j'étais avec un ami qui crée des jeux. Donc, j'avais trouvé que c'était vraiment un jeu cool à lui faire découvrir. Et on y a rejoué au Weekend Proxy Jeux. Alors j'aime bien, je trouve que l'exercice intellectuel de découvrir les règles est vraiment cool. En revanche, je trouve qu'il manque, notamment on nous demande par exemple la mise en place du jeu. Et dans les solutions, je trouve qu'il pourrait y avoir des images pour nous expliquer cette mise en place. On doit répondre à des questions. Et la solution, c'est juste la réponse à ces questions. On n'a pas les règles du jeu des jeux finaux. Et je trouve que ça, c'est un peu dommage parce qu'on aurait envie d'essayer ces jeux-là, mais on n'a qu'une partie des règles et pas tout. On pense avoir compris le truc, mais pas tout. Et je trouve que c'est assez frustrant. Pour moi, il manque vraiment pas grand-chose pour que ça soit hyper brillant. Mais ce truc de pas aller au bout de la solution m'avait frustré un peu et avait frustré aussi les autres joueurs avec qui j'ai joué.
Et est-ce que ça t'a donné envie de créer toi-même des jeux ?
Non, moi je pense que c'est pas trop... Ça fait pas partie de mes envies. Enfin, ou si je crée un... Moi, ça serait plus de créer des grands jeux, ce que j'ai déjà fait. Notamment en colo, trucs comme ça, des chasses au trésor, des... Si je devais créer un truc, ça serait un escape game, je pense.
D'accord. Avec des énigmes, des objets à essayer d'ouvrir, des mystères à percer.
C'est ça.
Oui, je vois. Après, on peut, en grand jeu, faire des adaptations de jeux de société. Tu parlais du passe-temps, là, dans les commentaires, il y avait une des personnes qui parlait du passe-temps, qui essayait des choses. Et justement, dans leurs essais, il y avait cette idée de adapter, je me souviens d'une émission où il y avait une adaptation de Living Forest, qui, en fait, devenait un jeu de course où t'allais chercher des ressources et que tu ramenais. Et c'est vrai que c'est des grands jeux que tu peux organiser comme ça avec en colonie de vacances, en centre de loisirs. Voilà, ça renouvelle un petit peu le genre, quoi.
Et oui, bah, je t'en avais parlé, mais j'avais joué à Sherlock Holmes Détective Conseil en réel, quoi, dans la ville d'Annecy.
Tout à fait. Et moi, j'en avais reparlé à ce micro dans Faites vos jeux, dans la chronique sur Sherlock Holmes Détective Conseil, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. C'est intéressant de mettre comme ça IRL des jeux que tu joues sur table, quoi.
Et c'était une expérience incroyable. Ils font ça régulièrement et dans toute la France. Donc, renseignez-vous là-dessus parce que vous avez moyen de pouvoir y jouer. Et vraiment, c'était très, très cool.
Bon, bah, grand merci pour tous vos commentaires. On essaye de battre un record quand même aujourd'hui, hein, pour le mois de juin. C'est la dernière émission de la saison. Ça y est, on lâche les chevaux. Faut tout donner, là.
Bah, en fait, si on dit plein de bêtises, j'ai l'impression que c'est ça qui amène les commentaires aussi. C'est de dire des bêtises, comme ça, les gens viennent nous corriger. Qu'est-ce que t'en penses ? On fait exprès de dire des bêtises.
Avec Dédé, c'est un peu notre rayon. On fait exprès de faire plein d'à peu près. Comme ça, après, ça suscite voilà, des retours de la part des auditrices et des auditeurs pour dire non, mais là, c'est pas du tout ça. Hein. Vraiment, je sais pas, je me souviens d'une vague histoire de YouTube ou de Cure qui avait chanté quoi.
Ouais, mais c'est ça. En fait, il faut faire des à peu près en dehors du jeu, histoire qu'on continue à garder notre chapeau d'experte en jeu de société. Qu'on perde pas notre légitimité, mais on dit des à peu près sur d'autres trucs. Qu'est-ce que t'en penses?
Ça marche. Oui, ou alors on dit que tous les à peu près qu'on va dire, c'était contrôlé, quoi. C'était, en fait, c'est des pièges que l'on vous tend pour que vous nous laissiez des messages. Parce que nous, on aime bien ça et on va avoir tout l'été pour lire vos messages. Donc, voilà, donnez-nous de la lecture sur les plages. Voilà, on lira vos commentaires sur la plage. Et donc, on va commencer. Élodie, de quel jeu vas-tu nous parler ?
Alors, je vais vous parler de Rebelle Princesse. Alors, Rebelle Princesse, c'est un jeu de Daniel Byrne, Gerardo Guerrero, Kevin Pelaez, Tirso Virgos, qui est illustré par Alfredo Caceres. Édité originalement par Zombie Paella, un éditeur espagnol, localisé en France par Gigamic et distribué aussi par Gigamic. Nombre de joueuses de 3 à 6 princesses autour de la table pour des 8 ans et plus et une durée de jeu de 40 minutes. À l'heure où on enregistre, le jeu n'est pas encore dispo à la Caverne du Gobelin parce qu'il n'est pas encore sorti, mais normalement, quand vous écouterez cette émission, il sera disponible. Est sorti, à moins que le container ne soit pas arrivé de Chine.
Alors, est-ce qu'on peut juste faire un petit arrêt sur le meilleur nom d'éditeur du monde ?
Zombie Paella, et je reviendrai sur cet éditeur à la fin de cette explication de jeu, parce que l'éditeur m'a intrigué, puis c'est vrai que j'avais parlé un petit peu avec eux à Essen. Et voilà, je reviendrai à la fois sur le pourquoi ce nom et sur les différents jeux qu'ils ont pu sortir déjà. Donc, je voulais commencer à vous expliquer comment j'ai découvert ce jeu. En fait, je l'ai découvert quand on faisait notre liste de courses pré-essène avec Cyrus. Alors, le pitch du jeu disait « Jouez le rôle d'une princesse de conte de fées qui ne veut pas épouser le prince charmant et évitez les propositions en mariage pour gagner. Un jeu de plis addictif dans lequel chaque manche a des règles différentes. » Alors, il en fallait pas plus pour me donner envie.
Oui, là, t'étais hypée, ouais. Le poisson était ferré, là.
Là, complètement, là, ferré... On n'y avait plus qu'à tourner le moulinet et c'était bon. Et une fois à Essen, du coup, c'est l'un des premiers jeux que j'ai voulu, auquel j'ai voulu jouer. J'avoue que j'ai un petit peu entraîné ma comparse du jour à aller jouer à ce truc. On a aimé toutes les deux et je suis partie avec, direct. Bon, faut dire que j'ai eu une espèce de folie acheteuse à Essen.
Il paraît que ça arrive à beaucoup de monde. Je ne sais pas si c'est quelque chose dans l'atmosphère. Je sais pas à quoi il marche à Essen, mais j'ai l'impression que quand il va, tu reviens pas les mains vides.
C'est ça. Alors j'avais réussi à ramener plutôt que des petites boîtes parce que je m'étais dit faut tout que ça rentre dans ma valise et mon sac à dos. J'étais quand même arrivée à être à peu près raisonnable. Pour le coup, ce jeu-là, je suis ravie de l'avoir récupéré parce que je savais pas du tout qu'il allait être localisé en France et il était sold out au bout du premier soir.
Et est-ce qu'on a envie d'être raisonnable? Franchement, je rebondis, je mets quelques instants avant de rebondir à tes propos, mais on en a un peu assez d'être raisonnable, non?
C'est vrai, on n'a qu'une vie. Puis j'ai une grande maison, j'ai la place pour mettre les jeux. Donc,
okay.
Après, c'est plus la frustration de ne pas y jouer. Tu vois, de les voir qui m'appellent et de ne pas avoir assez, alors pas forcément de temps, mais assez d'amis pour jouer à ces jeux-là. Parce que les amis ont des jeux aussi et veulent jouer à leurs jeux. Donc, il y a ce côté un peu frustrant de ne pas jouer assez. Mais... Rebelle Princesse, j'y ai plutôt bien joué et je pense que j'en ai une dizaine de parties au compteur. Donc c'est pour ça aussi que je me permets de vous en parler. Donc voilà pour le contexte des découvertes. Et donc j'étais assez contente de savoir qu'il était localisé en France. Avec un truc un peu mitigé, tu vois, à la fois c'est mon petit trésor que je faisais découvrir comme ça. Et de savoir qu'il allait arriver et que tout le monde allait pouvoir se le procurer, tu dis « Hein ?» c'est plus mon petit truc à moi, mais d'un autre côté, c'est très très cool que plein de gens puissent se le procurer et le découvrir.
Connaissant ta nature généreuse, Je pense que c'est plutôt la deuxième proposition. Enfin, tu penches plutôt vers la deuxième, quoi. Même si au début, peut-être, ça t'a fait quelque chose. voilà, on partage. De toute façon, si on est à ce micro, c'est pour partager. Donc,
tout à fait. Non, mais c'était un très chouette jeu et c'est très cool qu'il arrive en France. Et...
Super. En tous les cas, moi, je fais partie des gens à qui tu l'as fait découvrir, ce jeu.
Tout à fait. Tout à fait. Donc, nous étions plein de princesses autour de la table au moment d'y jouer.
Que des princesses.
Que des princesses. De toute manière, c'est le fleuve du jeu. Nous sommes que des princesses. Donc voilà, maintenant, on va partir un peu sur l'explication de ce jeu et à quoi ça ressemble. Donc, c'est un jeu de plis. Et le but du jeu va être d'éviter de récupérer certaines cartes, qui sont les demandes en mariage des fichus princes, parce qu'on a envie de faire la fête entre princesses. Normalement, c'est une fête privée qu'entre filles. Et il y a des princes qui essayent de s'immiscer dans la fête et de nous faire des propositions en mariage. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans le jeu ? On trouve les cartes qu'on va jouer. Donc, il y a 4 couleurs de cartes, 12 cartes par couleur. Donc, les cartes jaunes, les fées, les cartes rouges, les reines, les cartes bleues, les princes dont on ne veut pas, et les cartes vertes, les animaux. Parmi ces cartes vertes, un prince particulièrement sournois, c'est le 8. C'est un crapaud, c'est un prince qui s'est déguisé en crapaud.
Oh le sournois.
Oh le sournois, oh le vil fifrelin. Lui, on n'en veut absolument pas, autant tous les autres princes, les bleus, nous ramènent une proposition en mariage, autant le prince déguisé en crapaud nous en ramène 5. Donc cette carte-là, on la veut absolument pas dans les plis qu'on va faire.
Il est déguisé ou il est transformé ?
Moi, je l'imagine déguisé. D'accord. Mais sur la carte, c'est un crapaud qui tient une bague de fiançailles, avec un gros caillou. Hein. Donc le caillou fait envie, mais on n'a pas envie de le récupérer quand même. Parce que nous ne sommes pas des filles faciles qui aiment que les diamants. Enfin, je pense que c'est plutôt un rubis, il est rouge. À côté de ça, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre dans la boîte ? On va trouver 10 cartes pouvoirs de princesse. Je vais revenir après sur ces pouvoirs et comment ils servent. Et 21 cartes de manche qui vont être des règles de manche qui vont changer d'une manche à l'autre. Donc on va... distribuer les cartes. En fonction du nombre de princesses autour de la table, on va enlever certaines des valeurs. On va enlever 3 valeurs quand on est à 3, 2 valeurs quand on est à 4 ou 5, et on garde tout à 6. Toutes les cartes vont être distribuées, ce qui va permettre quand même de pouvoir compter et d'avoir une maîtrise de ce qu'on fait, à peu près. Parce que avec les règles de manche, vous allez voir, ça amène un peu de chaos. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui sont capables de compter, je sais pas si c'est ton cas...
Non, je ne compte jamais. C'est contre ma philosophie de la vie.
Moi, je suis un peu comme ça aussi. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à compter les cartes.
Oui, ouais, en vrai, c'est ça. C'est parce que j'y arrive pas. Si j'y arrivais, je pense que je compterais.
Ouais, moi, je m'appelle Dory. Hein. À part peut-être les plus grandes, à me dire, ouais, le 10, il est... Enfin, donc là, ça va jusqu'à 12. Dire le 11 et le 12 sont passés, mais le reste...
Oui, voilà, ça aussi, ça reste à ma portée, pas plus.
Donc voilà, ensuite on va donner une princesse à chacun et chacune des participants autour de la table. Alors dans la règle, ils disent qu'on peut choisir ses princesses, moi je préfère ou qu'on les donne au pif. Moi j'aime mieux les donner au pif, ça évite des ouin 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 autour de la table en disant ouais mais ta princesse elle est plus forte que la mienne et gna 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 et gna 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 et ton pouvoir il est plus intéressant. Parce que ces princesses, ça va être un pouvoir qu'on va pouvoir jouer une fois par manche. Donc 5 fois par partie. C'est des pouvoirs assez circonstanciels. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y en ait des plus fortes que d'autres. Et j'y reviendrai un peu plus tard. Ensuite, on va prendre 5 cartes de manche, qui seront donc les différentes règles qui vont donner la couleur à chacune des 5 manches qu'on va jouer. La règle nous propose une mise en place pour la première partie avec des règles plus faciles, avec les cartes de manche les plus faciles. Je vous conseille de commencer comme ça. Surtout si vous jouez avec des gens qui sont peu habitués au jeu de plis, parce qu'on peut avoir quand même des effets de manche qui sont un peu techniques et un peu taquines. Donc les 5 de départ sont plutôt cool pour découvrir le jeu.
Oui, parce qu'avant de mettre le bazar dans les règles, il faut quand même assimiler les règles de base, quoi. Enfin, on ne va pas partir tout de suite sur le chaos. Ouais.
C'est ça. Faisons d'abord la piste verte avant de partir sur la piste noire.
Oui, c'est toujours une meilleure idée.
Après, on a des fifous, hein. On a des gens qui jouent sans connaître les règles sur BGA, donc...
Oui, et on en et connaît bien.
Voilà.
On a les noms, d'ailleurs, de ceux qui font ça. Hein.
Et bien, toi qui fais ça, tu peux commencer en mettant les cartes manches que tu veux. On a fait la mise en place. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va jouer nos cartes. C'est un jeu de plis. Donc je pose une carte, c'est la couleur que je... Si je pose une carte reine, donc les cartes rouges, tu vas devoir jouer à rouge. On n'est pas obligé de monter. Si on n'a pas la couleur, on défausse. la valeur la plus importante remporte le pli. On ne peut pas, la seule règle, c'est qu'on ne peut pas commencer par des princes, donc par les cartes bleues, si ils n'ont pas été encore défaussés. Ce qui paraît logique, enfin ce qui thématiquement est logique, parce que les princes ne sont pas invités à la fête, donc ils peuvent pas se pointer comme ça. Donc il faut qu'il y en ait un qui soit rentré en douce dans la fête, qu'il ait ouvert la porte aux autres avant que les autres puissent, tu vois, tous se ratiner et venir danser avec nous. Alors qu'on n'a pas envie, hein, je le rappelle.
Oui, et puis, enfin, c'est pas juste qu'il a réussi à rentrer, c'est que on l'a chopé, quoi. On l'a vu.
C'est ça. C'est ça. Puis il a ouvert la porte aux autres, tu vois. C'est vraiment, c'est vil.
C'est sournois.
Oui, ils sont sournois. Ils ont une tête de sournois. Enfin, voilà. En plus, ils le portent sur eux qu'ils sont sournois. Donc, une fois par manche, on va pouvoir utiliser notre pouvoir de princesse. Une fois qu'on l'a utilisé, on tourne la carte. Et à la fin de la manche, on compte les demandes en mariage que chacune des princesses a reçues. On marque ça sur le petit carnet de score. Et donc, on fait ça 5 fois. À la fin de la partie, celle qui a reçu le moins de demandes en mariage gagne la partie. S'il y a égalité, c'est celle qui a fait le plus de manches sans demande de mariage. Et s'il y a encore égalité, on se partage la victoire. Donc, je vais revenir maintenant sur les effets de manche. Avant de commencer les manches, souvent, on va devoir filer de certaines de nos cartes à droite ou à gauche, ce qui va un petit peu tempérer si on n'a vraiment pas eu de bol au tirage. On va pouvoir se débarrasser de nos cartes les plus pourries, peut-être faire une coupe, etc. Bon, après, tu fais un plan et en fonction de ce que tu récupères de ta voisine, ton plan, il se casse la figure. Ouais, t'avais prévu une coupe à jaune et on te file 3 jaunes. Bon, bah, c'est con, hein.
Mais dommage. Des
fois, ça... Dommage. Voilà, t'avais viré des petites et on t'en refile des grandes, c'est dommage. Mais des fois ça passe. Des fois ça passe, t'arrives à faire une coupe et tu récupères des trucs pas trop trop mal.
Et est-ce que c'est malin de refiler à ce moment-là des princes à sa voisine? Pas vraiment. Vaut mieux les avoir en main au départ ou vaut mieux...
Alors si t'as une main de prince, je pense qu'il vaut mieux en refiler quelques-uns quand même. Mais si t'en as que quelques-uns, t'arriveras toujours à les défausser, je pense qu'il vaut mieux faire une coupe. Et virer tes grosses cartes pour être sûr de pas choper des plis. Après, choper des plis, c'est pas forcément gênant, parce que si tu chopes un pli composé de fées, donc les jaunes, de reines, les rouges, et des animaux autres que le crapaud, ça ne fait rien, c'est absolument pas gênant. Ce qu'il faut pas avoir, c'est les princes et le crapaud. Le reste, faire des plis, c'est pas embêtant.
Oui, j'ai presque l'impression qu'il vaut mieux en garder quelques-uns pour pouvoir les refiler au bon moment. Oui. Tu contrôles le prince.
Oui, voilà, tu contrôles le prince. Les effets de manche. Alors, sur la règle, ces effets sont mis par... Enfin, ils ont des lettres, ils sont par ordre alphabétique, il y en a 21. Et ils sont mis du plus facile au plus difficile. Certains effets sont conseillés, on nous conseille de mettre certaines cartes juste pour la 5e manche, et de garder ces celles avec un petit sablier, parce que c'est celles qui vont créer le plus de rebondissements et donc avoir des fins de partie un peu explosives.
Bah c'est le feu d'artifice, hein. Tout bonne fête au château se termine par un feu d'artifice. Et donc ça veut dire qu'avec ces cartes sabliers, rien n'est joué jusqu'à la dernière manche. Ça fait des retournements de situation.
Tout à fait, ça fait des sacrés retournements de situation. On a eu le cas une fois... d'une partie où le joueur il s'est pris 49 points à la dernière manche. Il menait et... Oh. Et ce que je trouve chouette, c'est que ces effets de manche ont des noms sympas et que thématiquement et mécaniquement, il y a un lien. Moi, j'aime bien quand un jeu, il est logique entre sa thématique et sa mécanique. Donc, le premier effet dont je voulais vous parler, c'était le bal masqué. Durant cette manche, tout le monde, à part la princesse qui ouvre le pli, joue sa carte face cachée, le reste des règles s'appliquant normalement. Quand toutes les princesses ont joué leur carte, révélez-les pour déterminer qui remporte le pli. Donc là, on voit bien le chaos que ça peut amener.
Ouais, et puis quand tu dis bal masqué, j'ai tout de suite des musiques qui me viennent dans la tête. Hein. Attention, ouais. Hein. C'est le genre d'expression à utiliser avec modération quand même.
Oui, oui.
Oui, oui. C'est cadeau chez vous. Voilà. Voilà. Si vous avez la chanson dans la tête pour le reste voilà. De la journée... C'est cadeau.
Et vous pouvez nous envoyer un petit commentaire pour nous engueuler.
Non, on n'a dit pas d'engueulade. On a dit...
Pour nous remercier d'avoir cette voilà. Superbe chanson de la compagnie créole en tête.
Et en même temps, bah, je trouve que ça donne le sourire, tu vois. T'es dans la rue, t'as ça dans la tête, ça peut le faire. Bon, revenons aux effets. Donc, le bal masqué, effectivement, la thématique, enfin, le thème, l'expression, le titre de la carte correspond bien à ce qu'on va faire.
Tout à fait.
Et les autres sont comme ça aussi, alors ?
Oui, on a les chaises musicales. Après chaque pli, chacune des princesses passe une carte de sa main à la personne qui se trouve à sa droite, simultanément. Qu'on voit bien aussi l'idée de la chaise musicale.
Après chaque pli, du coup.
Ouais. Ouais, donc là aussi, hein, en termes de maîtrise, c'est bof, bof, quoi. T'as à chaque fois une carte qui t'arrive.
Le prochain type de carte, j'essaye de deviner ce que ça fait.
Ah bah oui, tiens, on va faire ça.
Pas un trop difficile, hein. Pas un trop difficile, s'il te plaît.
Alors, je te propose la sans-dessus-dessous.
La chaise musicale, j'avais trouvé, hein. sans-dessus-dessous. En fait, non, tu joues quand même pas au hasard tes cartes.
Non.
T'as une pile de cartes devant toi et tu prends celle du dessus, ouais.
Non.
Je ne sais pas.
Alors, je vais te donner juste l'illustration de cette carte. L'illustration, c'est le flamant rose d'Alice, donc celui qui permet de jouer au croquet.
Ouais. Il a la tête en bas, normalement.
Il a la tête en bas, tout à fait, il a la tête en bas. Et donc, ça va être, en fait, la hiérarchie des valeurs va être inversée dès qu'un 6 apparaît dans un pli.
D'accord.
Par exemple, un 12 sera la carte ayant la valeur la plus basse et un 1 la plus haute. Les règles normales du jeu s'appliquent le reste du temps. La hiérarchie serait à nouveau inversée pour chaque 6 qui apparaîtrait lors d'un même pli. Donc là, on voit quand même le potentiel de nœud dans le cerveau, quoi. T'as un premier 6 qui arrive, t'as un deuxième 6 qui arrive, tu fais « Oh putain, ça y est, c'est reparti dans l'autre sens ».
D'accord, ok. Bon, après, des 6, il n'y en a pas 15 dans le jeu, ça doit pas. Ça arrive à quelques plis, quoi, seulement. Mmh. Ouais, d'accord, ok.
Je trouve ça rigolo.
Bon. Ouais, c'est rigolo.
Celle-là, on n'est encore jamais tombé dessus. Ça me donne très très envie de refaire une partie pour jouer avec les effets de manche que je n'ai pas encore testé. Passer le bouquet.
Celle qui récupère le pli, elle le donne à qui elle veut ?
Ah, ça pourrait. Ça serait rigolo, ça. Non, chaque carte jouée dans une nouvelle couleur mène. Par exemple, Pocahontas ouvre le pli avec une reine. Si Mulan n'a pas de carte rouge et joue une carte animaux, la couleur demandée devient alors le vert et les autres princesses doivent jouer du vert si elles en ont. La carte la plus forte de cette dernière couleur remporte donc le pli.
Oui, c'est ça. En sachant que si t'as la couleur demandée au début, tu vas pas changer la couleur, quoi. Ça n'arrive que si t'as pas la couleur demandée. Ok.
Ça va arriver en milieu de manche, en fait. Et enfin, je voulais vous donner deux exemples d'effets de manche pour la cinquième manche, qui sont le cadeau de mariage. Alors, cadeau de mariage, tu l'as joué avec le cadeau de mariage. C'est dans cette manche, au début de chaque tour, chaque princesse place une autre carte de sa main face cachée dans une pile qui sera remise à la gagnante du pli. Par conséquent, dans cette manche, seule la moitié des tours seront joués.
Ah oui, je me rappelle, effectivement. Oui, alors les cadeaux de mariage, ça peut être des cadeaux empoisonnés, cette affaire-là, quand même. Hein.
Ah oui, c'est complètement des cadeaux empoisonnés. On met toutes ces cartes pourries dans le... À moins de se dire, ce pli-là, je vais le récupérer. Sinon, tu files vraiment tes cartes pourraves, quoi.
On fait des surprises, quoi. On prépare des petites surprises.
C'est ça, des petits cadeaux sympathiques. Et enfin, le dernier effet de manche dont je voulais vous parler, que je trouve très joli, qui s'appelle « Fée du célibat ». À la fin de cette manche, chaque carte fée que vous avez gagnée élimine une demande en mariage de prince et vous retire un point. Vous pouvez donc, lors de cette manche, marquer un nombre négatif de points. Donc, on peut récupérer des points.
Mais c'est les bonnes fées, ça. C'est les fées marraines. Ouais, elles sont toujours à nos côtés. Et quand on est dans l'embarras, elles viennent donner un coup de main.
C'est ça.
Okay.
Et c'est l'une des seules façons de récupérer des points.
Oui, il y a une grande variété quand même. Effectivement, ça rajoute bien le chaos dont tu parlais et le fait que ça n'est pas un jeu plan-plan. Il va y avoir des événements à cette fête.
En début de partie, vous avez une princesse, vous allez incarner cette princesse tout au long du jeu, et elle va vous offrir un pouvoir utilisable une fois par manche. Donc des princesses, on en a une douzaine, je crois. Je vais vous en citer deux, et puis je vous laisserai découvrir les autres. Il faut quand même avoir un peu de plaisir de la découverte. Si je vous raconte tout, ce sera plus rigolo.
Faut pas tout divulgâcher.
Donc, je voulais vous parler de Blanche-Neige et les sept nains. Lorsque vous jouez une carte de valeur 7 ou moins, vous pouvez décider qu'elle compte comme une carte de valeur 0. Donc ça, une fois par manche. Et enfin, ça c'est un petit clin d'œil que je te fais. Alice, le chaos déjanté. Je sais que tu aimes beaucoup Alice au Pays des Merveilles. Juste après avoir remporté un pli qui ne contient pas la grenouille, vous pouvez mélanger les cartes de ce pli et les redistribuer aléatoirement à toutes les princesses, y compris vous, pour les rejouer.
Ouais, il y a une prise de risque là quand même.
Parce que tu peux récupérer la carte que tu voulais pas. Mais c'est justement, je trouve que thématiquement, là encore, ça colle quoi. Je trouve qu'ils sont arrivés à trouver des effets qui collent aux différents personnages, aux différentes princesses et à leur histoire.
Et s'il y a 5 manches, c'est parce que la fête, elle dure 5 jours, c'est ça ? Bon, bah c'est le week-end proxy-jeu. C'est le week-end proxy-jeu, quoi.
C'est ça. On était toutes des princesses au week-end proxy-jeu. Ouais, là, j'ai des images en tête de gens déguisés en Pocahontas et en Alice et en Blanche-Neige. Ah.
Il y a moyen, hein, parce que l'année dernière, au week-end proxy jeu, il y avait des nattes, il y avait une postiche de nattes qui aurait très bien fonctionné pour Pocahontas, hein, quand on avait fait l'attaque du train en grandeur nature, là.
Oui, ça, j'en ai entendu parler du Colt Express grandeur nature et...
C'est ça.
Et je me suis dit que ça devait être extraordinaire.
Il y avait un peu de déguisement.
J'ai beaucoup regretté que tu ne sois pas là cette année, que tu ne le refasses pas, parce que...
Oh non, mais une fois, c'est bon, hein, c'est... Un déguisement, voilà, tous les deux ans, un déguisement.
Ok, bah vivement l'année prochaine alors. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu ? Vous l'aurez compris, hein, je l'ai beaucoup aimé.
Non mais de toute façon, ça s'était senti hein, que t'avais bien aimé.
Bah ouais, déjà, j'aime les jeux de plis. J'ai énormément joué au tarot pendant mon internat au lycée et après à la fac. Donc c'est une sorte de Madeleine de Proust pour moi, les jeux de plis. Il y a ce côté... vraiment réminiscence de l'adolescence et de ces chouettes moments. Donc dès qu'on me sort un jeu de plis, il y a tout ça qui revient, ce qui fait que déjà, j'ai vraiment un grand plaisir à jouer à ce type de jeu. Ensuite, j'ai énormément aimé le pitch et l'humour qui se dégage de tout le jeu. Même si on oublie assez vite que ce sont des animaux, des fées, des reines et des princes. Quoique les princes, on les oublie pas tant que ça. Mais sinon, on parle plutôt des couleurs. Mais malgré tout, avec nos cartes de... Les cartes, déjà, elles sont magnifiques aussi. Elles sont plutôt... Enfin, toutes les princesses sont très belles et tout ça. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose d'immersif dans le jeu, malgré tout, et qu'on se raconte quelque chose. Ensuite, j'ai beaucoup aimé ce petit détail, qui n'en est pas un, de ce crapaud, vilain crapaud, là, avec ses 5 demandes en mariage, qui est comme ça au milieu d'une couleur qui vient se planquer et qu'on peut facilement récupérer, celui-là. Autant les princes, t'arrives plus ou moins à te... Puis bon, t'en chopes un ou deux, ça va. Le crapaud, il fait quand même super mal, donc je trouve que cette idée-là, elle est vraiment, vraiment intelligente et maline. J'ai bien aussi aimé le chaos maîtrisé, malgré tout. Parce que certes, il y a du chaos, chaque effet de manche amène des choses différentes. On a toujours besoin, comme ça, de s'adapter à chaque fois. Il y a ce besoin d'adaptation, de « hop, attends, cette manche, elle fait ça, donc il va falloir que je joue comme ça. » Il va falloir un peu reswitcher sa façon de jouer et de réfléchir. Mais à la fois, on maîtrise quand même, vu que toutes les cartes sont données par rapport, par exemple, à un Skull King, où là, pour le coup, c'est le chaos pour le chaos, puisque toutes les cartes sont pas données et tu sais absolument pas ce que les autres vont pouvoir avoir en main. Là, tu peux quand même compter un minimum et maîtriser un peu ce que tu fais. Et à la fois, tout en ayant énormément de rebondissements, qui amènent comme ça des frissons dans la partie et qui amènent de l'émotion, qui font que chaque partie sont différentes aussi. Et ça, j'ai trouvé ça très très cool. J'ai bien aussi aimé les pouvoirs des princesses, qui sont très circonstanciels. Parce que on peut avoir une partie où notre pouvoir de princesse ne nous sert jamais, et d'autres parties où on va nous servir quasiment à chaque manche. Mais ça, quand tu t'en sers, en général, tu fais le bon coup, et ça, c'est super agréable. Je trouve qu'il marche aussi bien à 3, qu'à 4, qu'à 5, qu'à 6. Pour l'avoir testé dans toutes les configurations, je l'ai trouvé cool tout le temps. Et enfin, j'ai trouvé aussi très chouette le fait de pouvoir moduler la difficulté en fonction du public. Parce que c'est dit dans la règle, par exemple, si tu joues avec des gens qui ont vraiment pas l'habitude de jouer à des jeux de plis, tu peux ne pas donner les princesses et donc pas avoir ce truc-là en plus. Et j'ai par contre deux petits bémols, enfin un bémol surtout, c'est je trouve que, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on avait eu une partie comme ça où un des joueurs s'était pris 49 points dans les dents à la dernière manche alors qu'il menait, c'est l'effet K qui s'appelle la reine de la danse. Et je vais vous le lire. Donc, c'est lors du décompte des points, séparer les princes et les reines des autres cartes que vous avez gagnées. Si un prince et une reine ont la même valeur, ils rapportent à leur ensemble 3 points. Des couples prince-reine de valeurs différentes rapportent 2 points. Et si un prince ne peut être associé à une reine, il rapporte un point comme d'habitude. Et je trouve que cet effet de manche est hyper punitif. Et beaucoup trop ouais. par rapport à tous les autres effets de manche. Et dernier bémol, c'est si vous jouez avec des gens qui n'ont pas trop l'habitude de jouer à des jeux de plis, le fait qu'on change comme ça à chaque fois les règles d'une manche à l'autre, ça peut être très perturbant et très difficile pour eux. Donc c'est quand même un jeu à jouer avec des gens qui ont une petite habitude du jeu de plis et qui seront ok comme ça pour être pour ce changement de pied d'une manche à l'autre. Il y a des gens, ils aiment bien quand même maîtriser un truc avant qu'on leur change les règles. Et là, on n'a pas le temps de maîtriser quelque chose, une manche c'est trop court.
Après, le changement de pied quand on est dans un bal, ça arrive fréquemment. Hein.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Toi, t'en avais pensé quoi ?
Je me demande ce qu'on danse d'ailleurs au bal des princesses. Oui, j'avais trouvé ça... Je suis pas une grande fan de jeux de plis, pas une grande connaisseuse, on va dire. J'ai pas ton expérience et ton background de jeux de plis, même si j'avais une grand-mère qui jouait beaucoup à la belote. Elle m'a pas tellement initiée. Mais c'est vrai que bah déjà, comme toi, le sujet, la thématique, le côté décalé, le fait que le crapaud, il ait 5 demandes en mariage, alors je me demande si ça veut dire qu'il ratisse large ou alors qu'il insiste beaucoup. Je me demande ce que ça veut dire, ce 5 demandes. voilà, l'humour m'a bien plu. Et puis effectivement, les effets de manche rend la chose intéressante, quoi. Parce qu'à chaque fois, tu dois te replonger dans... Ah oui, alors là, comme tu dis, l'adaptabilité, c'est quelque chose qui ne me déplaît pas. J'aime bien cette idée. Donc j'étais très contente de le découvrir en bonne compagnie. Et de toute façon, tu en parlais depuis longtemps. Donc c'est très bien que ça sorte aujourd'hui. Alors, il n'est pas encore sorti à la Caverne du Gobelin, mais tu as une idée du prix que ça pourrait avoir, toi qui as rencontré la responsable Gigamic.
Alors, je pense qu'il va sortir autour d'une 15aine d'euros. Il va sortir dans leur gamme qui était avant les gammes en métal, là. Et ils sont en train de transformer toute cette gamme métal en boîte carton à biseaux, qui sont plutôt élégantes, plutôt jolies. Donc, ça va arriver à partir de cet été, là. On va voir petit à petit toute leur gamme métal se transformer... Parce qu'a priori, ces boîtes métal ne peuvent être faites qu'en Chine. Alors, ce qui m'étonne un peu, parce que quand on voit toutes les boîtes de gâteaux et de caramel mou qu'on peut avoir, je me dis qu'il doit bien y avoir d'autres endroits où on fabrique ce genre de boîtes. Mais bon, voilà, c'est ce qu'elle nous avait dit. Donc l'idée, c'est d'avoir ces boîtes en carton, avec peut-être plus tard la possibilité de relocaliser la production en Europe ou en France. Donc à quel jeu peut-on relier Rebelle Princesse ? Tout d'abord au jeu traditionnel du barbu, qui va être constitué d'une succession de manches dans lesquelles on va devoir éviter de récupérer tel ou tel type de carte. Quelques exemples de contrats, contraintes de manches. On a les plis qui peuvent faire perdre des points, on a les cœurs aussi, ou les dames, ou le roi de cœur, le barbu d'où le nom du jeu. Donc à chaque manche, on va avoir comme ça des contrats à ne pas faire pour éviter de perdre des points. Plus proche de nous, on va avoir le roi des nains de Bruno Feduti en 2011. Qui reprend la mécanique du contrat par manche. Ici, on va pouvoir gagner ou perdre des points. On va pouvoir, enfin voilà, à différence du barbu, on ne fait quasiment qu'en perdre. Je crois qu'il y a une manche où on peut en récupérer. Là, au roi des nains, ça va être vraiment le joueur ou la joueuse qui choisit le contrat, qui va décider de l'enjeu de la manche. Donc si on va perdre ou gagner des points, c'est ça qui va changer d'une manche à l'autre. Alors que dans Rebelle Princesse, les effets de manche, ils vont plutôt changer la façon dont on joue la manche. C'est un petit peu différent quand même. Et en parlant d'effets de manche, l'effet de manche T, qui s'appelle Marché Magique, qui permet à la princesse qui remporte le pli d'échanger une carte de sa main contre une carte du pli, sauf celle qu'elle vient de jouer, m'a fait penser à Nine Lives, qu'on a joué aussi ensemble, oui. Où on va récupérer une des cartes jouées dans le pli.
Oui.
Alors, c'est aussi un jeu que j'avais ramené des scènes, et lors de ma première partie, à ma décharge, que j'avais faite, du coup, en revenant du festival, et avec très peu d'heures de sommeil, plus la route et tout ça, donc j'étais complètement éclatée, j'avais oublié le point de règle où il fallait récupérer des cartes, qu'un auditeur fidèle m'avait fait remarquer. Donc j'y ai rejoué depuis, on y a rejoué ensemble, et j'ai trouvé que c'était plutôt technique, le fait de récupérer une carte à chaque pli, je sais pas ce que t'en as pensé.
Ouais, tout à fait.
Alors dans Rebelle Princesse, on échange chaque carte, donc on aura toujours le même nombre de cartes dans sa main, tandis qu'à Nine Lives, on peut avoir un nombre de cartes différent entre joueuses. Et ensuite, le professeur il comparait Rebelle Princesse au tournoi d'Avalon ou au tournoi de Kaamelott à cause des pouvoirs des personnages à utiliser une fois par manche. Alors est-ce que t'as déjà joué au tournoi d'Avalon?
Oui, j'y avais joué à PEL.
D'accord.
Mais c'était vraiment au tout début de cette vague, on peut dire qu'il y a... Est-ce qu'on peut le dire d'ailleurs ? Il y a une mode des jeux de plis actuellement. Enfin,
ah oui.
Voilà, il y a plein de façons d'ordre les règles, de trouver le twist, pour utiliser le terme consacré, qui fait que le jeu a quelque chose de différent. Et c'est un des premiers jeux que j'ai joué comme ça. Et j'avoue que je suis passée un peu à côté de la partie. C'était un peu too much pour moi. J'étais pas encore suffisamment initiée aux jeux de plis de cet ordre-là, quoi. Donc j'en ai pas un super souvenir, mais je me souviens des pouvoirs, effectivement.
C'est l'un des plus chaotiques auxquels j'ai joué.
Oui, d'accord.
Puis les effets, ils se... Piou-piou dans tous les sens, t'as l'impression qu'ils se combinent, qu'ils se défont, qu'ils se font, que tu rejoins un truc. Enfin, moi vraiment, j'en ai fait qu'une partie, et pourtant j'aime le chaos. Hein. Mais là, c'était un peu trop aussi pour moi.
Ouais, donc c'était pas seulement lié à ma faible expérience, quoi. C'est ce que je comprends.
Non, je pense que c'est vraiment d'accord. Un jeu très chaotique et qui amène ces sentiments de tu perds pied, quoi.
Oui, il faut peut-être doser tout ça. Rebelle Princesse le dose bien à condition de pas mettre tous les sabliers, quoi.
Oui, c'est ça. Mettez pas tous les sabliers. Ou sinon, enfin, à moins que vous aimiez que ça fasse piou-piou-piou dans tous les sens. Allez-y, mettez tous les sabliers, jouez 12 manches. Fin...
Oui, c'est ça. Jouez comme vous voulez. Hein.
C'est ça.
Au bout d'un moment.
Voilà, je voulais ensuite passer à l'ergonomie au matériel. Bon, le matériel, je vous en ai déjà bien parlé. Sur l'ergonomie de la boîte française, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai joué qu'avec l'édition originale. En revanche, j'ai regardé les différences qu'il y allait avoir avec la localisation. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de différences, si ce n'est que les cartes, là, elles vont être adaptées au gaucher. Donc les valeurs sont des deux côtés de la carte. Et les illustrations sont un peu plus petites, du coup, pour pouvoir laisser de la place pour les numéros. Les effets de manche vont être notés sur les cartes, ce qui n'était pas le cas sur la version espagnole, sachant que la version espagnole, elle est trilingue. Donc, il aurait fallu 3 sets de cartes, ce qui est déjà le cas avec les princesses, mais il aurait fallu en plus pour les manches et tout. Je pense que ça faisait beaucoup de cartes, ce qui fait que tous les effets de cartes ne sont que dans le livret de règles. Gigamic a aussi rajouté en début de règles le vocabulaire du jeu de plis. Donc est-ce que ça dit quelque chose sur notre culture française, qu'on serait moins aguerri au jeu de plis que les Espagnols ? Quand je dis jeu de plis à des gens, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un jeu de plis. Après, si tu dis tarot belote, d'un coup ça tilte, mais je sais pas, qu'en penses-tu ?
Probablement, mais en tous les cas, pourquoi pas, hein, ce petit lexique peut s'avérer utile. S'il y avait encore de la place dans la boîte, ma foi.
Ben voilà, il y avait de la place dans la règle. Alors, pour gagner de la place dans la règle, ils ont changé un exemple. Parce que je suis allée au détail du détail, donc je suis allée comparer chaque phrase.
C'est du journalisme d'investigation.
Parce que ben c'est vrai qu'on ne peut pas faire ça souvent. C'est assez rare qu'on ait l'édition originale d'un jeu pour voir comment il a été localisé. Et ben j'en ai trouvé une d'erreur de règle. Et donc là, pour gagner de la place sur un exemple de pli, là où la règle originale avait 6 cartes, dans la règle de Gigamic, il n'y en a plus que 5 dans l'image. Et ils font exemple de pli, dans une partie à 6 princesses, Nelly ouvre avec un 4 de reine. Sauf que sur les images, nous n'avons que 5 princesses, on n'a que 5 cartes. Et donc toute l'explication, elle est un peu foireuse parce que c'est pas les bons noms, enfin, c'est que l'exemple. Hein. Je veux dire, il n'y a pas d'erreur de règle à proprement parler. Et je pense qu'ils ont fait ça, ils ont enlevé une carte pour gagner une ligne et du coup pouvoir remettre sûrement le vocabulaire des plis. Et ça m'a fait rire à dire, ben voilà, ils ne se sont pas rendus compte de leur erreur. Peut-être que ça sera corrigé dans la version qu'on aura sur nos tables.
Dans le jeu que je vais présenter tout à l'heure, moi aussi j'ai relevé une petite erreur de cet ordre-là. Est-ce qu'on ne serait pas un peu tatillonne ?
Moi, c'est plus des trucs qui me font rigoler.
Oui, c'est ça, bien sûr.
Je vois tout à fait comment ça a pu se passer. Ils se sont dit, mettre 6 cartes, ça fait trop petit, on ne les voit pas bien. On en enlève une. Donc, ils ont enlevé un truc pour que le design soit plus aéré, machin, nana. Et derrière, ils n'ont pas changé le texte. Enfin, ils n'ont pas tout changé le texte. C'est une erreur, c'est une erreur d'inattention. On a un peu de mal à comprendre l'exemple. Mais ça n'empêche pas de comprendre la règle. Et ce n'est pas très grave. Et c'est plus rigolo qu'autre chose.
Nous appellerons ça une coquille.
Voilà, c'est une petite coquille. C'est pas bien méchant. Voilà, j'étais contente de la relever, du coup je vous en fais part. Voilà, et un autre truc par rapport au pareil qui m'a fait un peu rigoler. Donc je suis allée voir sur BGG ce qu'ils disaient du jeu, et j'ai vu qu'aux USA, ils vont sortir une version deluxe du jeu. Oula, ça va pas être... Là, pour l'instant, c'est que des cartes, hein. Elles sont toutes pareilles.
Est-ce qu'il va y avoir... Attends, est-ce qu'il va y avoir la bague avec l'émeraude ?
Ah non, il n'y a pas la bague avec l'émeraude. Okay.
Bon, bah c'est pas vraiment deluxe alors. Il y a tromperie.
Il y a tromperie, ouais. Tu vas avoir des tuiles pour les princesses. Tu vas avoir des cartes de format tarot pour les effets de manche et des cartes au format carte classique pour toutes les autres cartes. Alors, pourquoi ils font trois types de cartes? Parce qu'ils se sont rendus compte dans les playtests que les gens aient mélangé tout.
Les gens, faites attention.
On a trois dos différents, ça ne viendrait pas l'idée de tout mélanger ensemble. Puis au pire, tu t'en rends assez vite compte. Hein. Et ils ont aussi mis les chiffres en haut à gauche et en bas à droite. Comme ça, ça t'évite de retourner tes cartes. Comme oui. Si le fait de retourner tes cartes, ça te prenait 15 plombes. Enfin, je sais pas.
Oui, c'est ça. Mais ça, c'est quand t'as le flamant rose, la tête en bas, tu vois.
Voilà. Voilà. Ce petit truc m'a un petit peu interpellée. J'ai trouvé ça un peu rigolo. Oui. Et je voulais dire quand même un mot sur les illustrations, parce que c'est aussi, ça fait partie du plaisir de jeu. Et les illustrations, je les ai trouvées, je trouvais qu'elles ont un vrai cachet, qu'il y a une vraie patte, qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de mièvre. Toutes les princesses, elles sont plutôt bien habillées, enfin je veux dire bien couvertes, hein. On n'est pas sur des personnages sexualisés. Et le trait, il est quand même assez particulier. Si on regarde par exemple la carte de Blanche-Neige, et ben... Sa pomme, elle est pas ronde tout à fait, elle est un petit peu anguleuse, les traits sont un peu anguleux, ils sont un peu particuliers, on a des petites hachures, on a des petites scories un peu à droite à gauche. À la fois, c'est quand même, ça reste élégant, sans être clean, je sais pas si c'est très clair, et je suis pas arrivée par contre à lier ça à un autre style, j'ai pas trouvé à qui relier ce type de dessin. Voilà pour les illustrations. Et puis enfin, pour terminer, je voulais quand même vous dire un petit mot de l'éditeur original, donc qui s'appelle Zombie Paella. Alors, il s'appelle comme ça parce qu'ils viennent de Valence, enfin Valencia, en Espagne, dont le plat typique est la paella. Et ils sont très jeux de zombies. Ils en ont fait deux sur les 7 ou 8 qu'ils ont sortis. Et ils ont fait un jeu qui s'appelle notamment Paella Park, où tu vas te balader dans un parc avec des zombies.
Eh bien, c'est ça qu'on veut.
Ils ont aussi sorti un jeu qui s'appelle Zodiac, qui est aussi illustré par le même illustrateur que donc Alfredo Caceres, que Rebelle Princesse, où là, on va être des diseuses de bonne aventure. Donc là encore, j'ai l'impression qu'ils mettent beaucoup de personnages féminins en avant. Bon, ils ont carrément aussi un jeu qui s'appelle The Zombie Paella. Donc, ils ont un autre jeu avec des zombies et de la paella. Hein. Et le dernier dont je voulais vous parler s'appelle Alakazam, qui est un jeu de cartes de sorcières et de tradition. 5 sorcières espagnoles se battent contre l'invasion culturelle américaine dans ce jeu de cartes. Les joueurs doivent récupérer des personnages d'une même culture, valencienne, catalane, galicienne, basque ou andalouse, et les comparer personnages de la tradition américaine. Donc là, on a par exemple le petit personnage carton d'Amazon ou le Père Noël. Les illustrations sont d'Esther Mendes qui a illustré pas mal de leurs jeux et à chaque fois, c'est graphiquement très osé et très marqué. Et à chaque fois, on a quand même des personnages féminins au centre des jeux et j'ai l'impression de voir quelque chose d'un petit peu engagé aussi. Et du coup, ça m'a donné très envie d'aller voir les autres jeux de cet éditeur.
Est-ce que c'est un éditeur qu'on voit sur les festivals comme Essen ou... Enfin oui, forcément, puisque tu avais trouvé Rebelle Princesse.
Ouais.
Ils étaient à Cannes aussi?
Non. À Cannes, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup d'éditeurs étrangers.
Et à Essen, ils avaient les autres jeux dont tu parlais ou pas?
Ils avaient VIP RIP, mais ils avaient pas les autres, je crois pas.
D'accord, ok.
Ils avaient vraiment un tout petit stand qui se partageait avec un autre éditeur espagnol. Je pense que j'y retournerai cette année là, puis en espérant qu'ils aient à la Kazoom là le truc des sorcières contre l'impérialisme culturel américain, ça me fait drôlement envie. Ou sinon, faut aller en Espagne récupérer les jeux.
Oui, ça peut être aussi une option viable et intéressante. Est-ce qu'on a besoin d'une excuse pour aller à Valence? Allez, on va à Valence et puis c'est tout. Hein. Merci beaucoup Élodie pour cette présentation de jeu qui donne envie d'y jouer, voire d'y rejouer.
Bon, et toi, quel est le jeu dont tu vas nous parler ?
Moi, mesdames, messieurs, je vais vous parler de Pixel Aventure, l'île au Forban. Alors, Pixel Aventure, l'île au Forban, on est sur un format de jeu de cartes, mais on n'est pas sur du jeu de plis. L'auteur, c'est Stéphane Anquetil, que les auditeurs fidèles de Proxy Jeux ont déjà entendu à plusieurs reprises sur notre antenne. Et vous savez certainement que c'est l'auteur de notamment de l'extension noire de Chronicles of Crime. C'est un jeu que tu as joué, c'est une extension que tu as joué, je crois, Elodie,
oui.
Déjà.
Oui, oui.
Alors, personnellement, mais je crois savoir que c'est pas tout à fait ton cas, moi, c'est les scénarios que j'ai préférés de la licence de Chronicles, parce que j'ai joué à beaucoup la boîte de base et puis les extensions Millennium, là, 1900, 2400 et 1400. Ouais, je l'ai dit dans le désordre, c'est pas dans l'ordre chronologique. Et j'avais vraiment bien aimé l'ambiance des films noirs à la Los Angeles des années 50 et la possibilité de soudoyer la police ou alors intimider les témoins, entrer dans les habitations par effraction, espionner, faire des filatures. Ce que je ne ferais jamais dans la vraie vie, hein, on est bien d'accord. Ça m'avait beaucoup plu et on peut même, et je ne sais pas si ça t'est arrivé quand tu y as joué, on peut même mourir.
Oui, ça m'était arrivé.
T'étais morte aussi. Alors, ce qu'a fait Stéphane Anquetil, c'est que c'est en début de partie hein, que tu peux mourir. Alors, je ne vais pas vous divulgâcher la façon dont on peut mourir, mais c'est pas au bout de 2 heures de partie que voilà tout s'arrête parce que tu as fait un mauvais choix. Mais n'empêche que ça donne une saveur particulière que n'avaient pas les autres. Mmh. Et puis, tu me rejoins là-dessus ?
Ah oui, moi j'avais trouvé que mécaniquement c'était très très cool, mais après, moi j'ai un problème avec, alors que ce soit les films noirs, les hardboiled détectives, Marlowe, tout ça, je ne comprends jamais rien aux histoires. Je ne pige rien à l'intrigue, et là, c'est ce qui m'a gêné, c'est que j'ai rien pigé à l'intrigue de ces scénarios.
D'accord.
Et du coup... Voilà, mon cerveau n'est pas fait pour les intrigues de films noirs, mais le Faucon Maltais, j'ai jamais rien compris. Je l'ai vu, je l'ai lu, je l'ai revu, j'ai rien pigé.
Ouais, mais c'est plutôt un film d'ambiance, quoi. C'est l'ambiance qui compte. À un moment donné, j'ai cru que c'était la place des femmes dans les films qui te dérangeaient. Quand t'as commencé à expliquer, alors ce que je n'aime pas trop... Je me suis dit, ah oui, là, on n'est pas du tout dans Rebelle Princess, on est vraiment avec des femmes fatales, parfois un peu potiches, parfois aussi qui font des coups en douce.
Ouais, mais qui, voilà. La femme fatale est, alors c'est pour le coup pas la potiche, quoi, c'est celle qui va manipuler, et c'est un peu la sorcière des contes, quoi, mais qui est quand même particulièrement intelligente, ce qui fait quand même que c'est pas des personnages si inintéressants que ça. Et puis après, on est dans un contexte historique qui est pas le même qu'aujourd'hui, et c'est pas ça qui me dérange le plus.
Oui, alors manipulatrice, un peu sournoise aussi quand même, pour le coup. Là, c'est elle qui endosse le rôle de la sournoise, et donc il faut se méfier des femmes et tout ça. Bon, allez, je reviens à ma fille signalétique, parce que je suis juste à la première ligne, donc... Donc voilà, l'auteur Stéphane Anquetil, il est connu aussi pour avoir gagné un concours de Sherlock Holmes Détective Conseil en 2012. Et c'est lui qui a écrit le scénario des Masques Africains qui a ensuite été intégré à la boîte de base du jeu. Et comme c'est un jeu, j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer sur cette antenne que j'aime beaucoup. Voilà, ça me donne une petite...
Monsieur Anquetil gagne des points tout de suite dans le cœur de Mad en ayant travaillé sur Sherlock Holmes Détective Conseil, évidemment.
Même si je me rappelle plus trop du scénario des Masques Africains, faudrait que je le refasse. Voilà, vous voyez, les jeux qu'on ne peut jouer qu'une seule fois, finalement, on peut les rejouer quand même parce que je m'en rappelle plus très bien. Alors peut-être qu'en refaisant l'histoire, ça me reviendrait, mais là tout de suite, j'ai un peu tout oublié.
Si tu rejoues avec quelqu'un qu'il n'a pas fait avec toi, quand tu t'en souviens, tu peux te mettre un petit peu en retrait, laisser l'autre chercher. Et
oui,
c'est aussi
fait.
Chouette. Les Unlock, par exemple, je les joue comme ça et Il y a certains scénarios d'Unlock que j'ai fait 3 fois. Bon, je m'appelle Dory, hein. ça aussi j'ai eu l'occasion de le dire plein de fois dans les émissions.
Alors, je sais, tu as peut-être oublié, mais tu l'as déjà dit lors de cette émission.
Voilà.
Et ensuite, c'est l'auteur de Crime Zoom qui a été traité déjà dans un jeu du mois. Donc, c'est le second jeu du mois qui parle de Stéphane Anquetil. Ça a été traité en mai 2020 par le regretté Twin. En tous les cas, on peut voir une filiation directe entre Pixel Aventure et Crime Zoom. D'ailleurs, c'était le premier nom de la gamme. Pixel Aventure, au départ, devait s'appeler Crime Zoom Aventure. Et en fait, je crois que c'est avec Asmodée qui doit distribuer le jeu, ou enfin, en tous les cas, en concertation avec, qu'il a été décidé comme il voulait que ce soit un jeu plus familial, d'enlever le crime du nom du jeu. Et c'est là qu'intervient la coquille que j'ai trouvée dans le livret de règles, parce qu'à la première ligne de ce livret, dans le principe du jeu, il est indiqué « Crime Zoom Aventure est un point and click ». Blablabla, blablabla. Et donc, ils ont oublié de le changer. Ensuite, l'illustrateur, c'est un certain Chrysalian, qui a fait des illustrations en pixel art que moi, je trouve absolument magnifiques. En tous les cas, je suis allée voir un petit peu son travail et j'ai trouvé ça assez fascinant. Il fait des gifs animés et avec du pixel art, et j'ai trouvé ça vraiment... Enfin, moi, je trouve ça bluffant. Et apparemment, il bosse désormais pour des studios de jeux vidéo. Ce qui m'étonne guère, parce que ces dernières années, on a vu quand même fleurir dans les jeux type point and click, jeux vidéo, pas mal de jeux qui sont faits en pixel art. L'éditeur, c'est Aurora Games. Alors, c'est un nom moins funky que les zombies et les pizzas, mais bon, voilà, c'est... Ça donne moins la couleur, on est sur quelque chose d'un peu moins farfelu. Et c'est Aurora Games qui édite les Crime Zoom dont on parlait. Et ils ont aussi à leur catalogue un jeu qui s'appelle Crime Hotel de Suzumu Kawasaki, qui est un jeu de déduction qui se passe dans un hôtel. Je sais pas si c'est un jeu que tu connais.
Pas du tout.
On a un petit tapis en néoprène, et puis il y a les chambres un petit peu comme dans Grotte Austria Hotel, t'as des chambres qui sont représentées. Donc il y a plusieurs étages, les chambres sont organisées en lignes et en colonnes, et il faut trouver où le tueur se cache. En fait, on a retiré une des tuiles avec les numéros de chambre de l'ensemble des numéros de chambre, et tu vas un petit peu aller au bluff, à la devinette, mais avec des petits pouvoirs que tu peux actionner quand même. C'est un jeu plutôt sympathique qui est édité aussi par Aurora Games. Donc les distributeurs, c'est effectivement, comme je disais, Asmodée et aussi Novalis. Alors peut-être que ça dépend des endroits où c'est distribué. C'est annoncé pour 1 à 4 joueuses. Moi, j'y ai joué à 3 personnes. Je pense que c'est la limite haute, hein. À 4, je crois qu'on doit se marcher un petit peu sur les pieds. Je sais que tu y as joué, toi. Tu y as joué à combien ?
Non, on y a joué à 2. Et oui, je pense que à 4, c'est compliqué, puisque tout le monde ne verra pas toutes les cartes et tout, les détails.
En ce qui concerne l'âge recommandé, c'est à partir de 10 ans. Ils annoncent des durées de 90 minutes. Et c'est disponible à la Caverne du Gobelin, notre partenaire, à 19,90€, histoire de pas dire 20€, quoi. Alors, comment j'ai découvert ce jeu? Je vais faire comme toi, je vais commencer par la première fois que j'en ai entendu parler. Ben, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est dans les débriefs de Cannes de cette année, où vous l'avez cité, parce qu'il y avait une version démo qui était jouable en plus petit format. Je crois que tu y as joué à ce moment-là aussi. Ça va être disponible en print and play. Alors, j'ai un peu cherché, je l'ai pas retrouvé sur les internets, mais en tous les cas, en écoutant ce que vous disiez de ce jeu... toi, t'as été hypé avant d'aller à Essen. Moi, j'étais hypé après que vous soyez allé à Cannes. Parce que, tout d'abord, je suis vraiment adepte des jeux qui racontent une histoire. Or, s'il y a un petit peu d'énigme ou un mystère à résoudre, j'avoue que c'est pas plus mal. Et puis surtout, je suis une grande amatrice. Dans mon cœur, il y a de la place pour Sherlock Holmes Détective Conseil. Et juste à côté, les point and click des années 90, parce que j'en ai fait quelques-uns. Et LucasArts fait partie de mes meilleurs souvenirs de jeux vidéo, avec par exemple des titres un peu, comment je vais dire, emblématiques, comme The Secret of Monkey Island, les Sam & Max ou Grim Fandango, et mon préféré de tous les préférés, Day of the Tentacle, qui fait partie des jeux des rares jeux que j'ai fini plusieurs fois. Je crois même que je connais certaines répliques par cœur. Est-ce que toi, tu y as joué à ces jeux-là ?
Non, pas aucun. Tu me fais envie. Parce qu'on a, sur les jeux narratifs, on a à peu près les mêmes goûts, du coup.
Ben en fait, il y a un côté un peu loufoque à toutes ces histoires où tu vas essayer de récupérer des objets et puis les combiner entre eux, quoi. Et c'est bourré d'humour. Et Day of the Tentacle, oui, je pense que ma fille y a joué elle aussi plusieurs fois. Je pense que on a pu y jouer sur l'ordinateur, mais je me demande même s'il a pas été remasterisé sur Switch.
D'accord.
Sur console, à voir. Mais vraiment, super souvenir de jeu. Et en plus, c'est des jeux qui se pratiquent super bien à plusieurs, en fait. Quand t'es coincé, il y a toujours quelqu'un pour... quand t'es à plusieurs, il y en a toujours un ou une qui va avoir l'idée qui va nous sortir d'affaire.
Alors, je sais pas si on peut le considérer comme un point and click. Moi, j'avais beaucoup joué au Chevalier de Baphomet et suite, les Quetzalcoatl. Et ça, on y jouait avec ma sœur et avec la Solus, parce que, en fait, ma sœur me lisait la Solus dès qu'on était un peu coincé, parce qu'on n'aimait pas chercher, nous, on voulait l'histoire.
Ouais, bah oui.
Et c'est rigolo, parce qu'elle m'en a, on a 6 ans d'écart, et elle m'en a reparlé il y a pas longtemps, en disant que c'était un super souvenir d'enfance, ça.
Et bah voilà.
Quand on jouait toutes les deux à ce jeu-là. Et bah, pour ces raisons-là, c'est vrai que c'est aussi un jeu qui m'avait, Pixel Aventure, qui m'avait donné envie, quoi.
Et en fait, c'est des jeux, effectivement, quand tu les jouais à l'époque, de mon temps, on n'avait pas Internet. On allait parfois sur... soit tu achetais des magazines où tu avais des solutions, mais voilà, t'imagines la périodicité de la chose. Ou alors, il fallait aller sur le Minitel. Des fois que quelqu'un aurait posté un élément de solution de où tu étais coincé, quoi. On peut même remonter encore plus loin dans le temps avec les jeux textuels, les jeux d'aventure textuels type Zork. Et tu nous avais parlé dans t'as joué à quoi de Château Aventure. Et Château Aventure, c'est typiquement un jeu qui est issu de ces jeux narratifs textuels où t'as une situation et puis t'as plusieurs possibilités. Bon voilà, ça c'est vraiment les prémices de ce genre de jeu, quoi. Et d'ailleurs, petite anecdote personnelle, pendant le confinement, à la maison, il y avait deux écolières de CM2 qui faisaient leurs devoirs tous les matins. Et en guise de projet d'écriture, elles ont rédigé un scénario de Château Aventure qui s'appelle « Vol en plein soleil ». Et justement, une aventure narrative... comme on peut faire dans Château Aventure. En fait, on a commencé par jouer des scénarios de Château Aventure, et puis on s'est dit, ce serait bien d'écrire le nôtre. Et en fait, c'est des jeux qui se jouent super bien à distance. Donc, quand elles ont fini d'écrire l'histoire, de faire les illustrations des objets que l'on va trouver et qu'on va combiner, tu scannes tout ça ou tu le prends en photo, et puis on a fait jouer pas mal de gens de notre entourage qu'on ne savait plus voir parce que chacun était chez soi. Ça aussi, c'est plutôt un bon souvenir. J'ai envoyé à Yellow le lien vers notre scénario qu'on a mis sur GitHub à disposition et ils m'ont jamais répondu.
Oh, les vilains. Si tu veux m'y faire jouer, ça serait avec plaisir.
Ah écoute, on va s'organiser ça. En plus, je pense que sur Discord, ça marcherait super bien.
Oui, on l'a déjà fait. On a déjà joué comme ça à distance avec des copains sur Discord et ça marchait très très bien.
Ma fille, encore elle a fini le collège. Là, elle a fait son stage 3e cette année. Elle a travaillé avec... je suis en train de raconter sa vie. Je suis pas sûre que quand elle va écouter, elle va être d'accord, mais bon. Bon bref, elle était dans un laboratoire d'informatique et sur une matinée, ils ont écrit comme ça, codé en Python, une petite aventure textuelle à la façon de Zork. Tu rentres dans une pièce, il y a ça, il y a ça, qu'est-ce que tu fais avec un arbre de conditions, qu'elle a transformé en bloc. Oh là là, je suis en train de raconter des choses, je vais me faire reprendre. Mais c'était pas du tout ça, t'as mal expliqué. Bon, en tous les cas, voilà, c'est quelque chose qui me parle pas mal, quoi.
Mademoiselle fille de Mad, n'hésite pas à mettre un commentaire sur le site de Proxy.
Ouais, c'est ça.
Pour reprendre ta mère.
Explique-nous comment on code en Python un Zork, voilà. OK. Bon, en tout cas, à chaque fois que je regarde sur les consoles, tu sais, il y a toujours les stores où tu vois les jeux que tu peux acheter comme ça en dématérialisé. Ça attire toujours mon attention, quoi. Là, il y a eu The Return of Monkey Island qui est sorti récemment, ou d'autres jeux qui font justement la part belle au pixel art. Bon, bah, tout de suite, j'ai mes antennes qui font tit-tit-tit-tit, et puis je vais voir. Donc, bref, ce jeu, il m'appelait. Lilo Forban m'appelait, disait, joue avec moi. Voilà, parce que comme c'est présenté comme un hommage au point and click, alors Stéphane Anctil, il parle de Mopiti Island comme référence que je ne connaissais pas, mais qui est la suite d'un autre jeu qui s'appelle Le Manoir de Morteviel, qui est en fait Mopiti Island et Le Manoir de Morteviel. En fait, c'est les aventures d'un détective qui s'appelle Jérôme Lange, et qui va être confronté comme ça à un mystère. Alors, je suis allée voir sur YouTube, comment dire, des gens qui jouaient, qui faisaient toute la partie pour voir un petit peu l'ambiance. Donc, c'est assez rudimentaire, mais tout était déjà là, quoi. Et donc, dans l'île aux Forbans, on a 87 cartes, précisément, avec des illustrations qui forment soit des paysages, soit des pistes. Et lorsque tu joues, tu as la possibilité d'explorer des lieux, il y en a une dizaine, de collecter des objets, là il y en a un petit peu plus, il y en a une quinzaine, et puis des indices qui vont te permettre de trouver, puis de tenter de résoudre des énigmes ou des situations. Et ça, tu vas le faire en combinant des objets avec des lieux, exactement comme les jeux dont je viens de parler là, juste avant. Et donc, il y a à la fois de l'observation, mais aussi une forme d'enquête, puisqu'il va falloir comprendre ce qui s'est passé. Et puis, plusieurs fins conditionnelles qui sont possibles, parce que dans ce jeu, on peut finir riche, on peut finir pauvre, on peut finir mort. Enfin, et tout ça, ça va dépendre des choix que l'on va faire dans le jeu. Est-ce que ça correspond bien à ce que tu as vécu ?
Tout à fait.
Alors, les grandes lignes de comment ça joue, eh bien, on commence par lire un prologue. Dans ce prologue, on apprend que notre oncle Christo Bay, alors je ne sais pas si tu as la référence avec ce nom, est-ce que ça te dit quelque chose ?
C'est pas un artiste qui a vécu tout seul sur une île des Baléares ou je ne sais pas quoi ?
Moi, je connais l'artiste Christo qui avait emballé le Pont Neuf à une époque. Mais non, en fait, Christo Bay, c'est une référence à une chanson de Pierre Perret.
Ah non, j'avais pas la
référence. Qui s'appelle Tonton Christobald. Tonton Christobald est revenu. Alors vraiment, quand j'ai lu, parce que c'est moi qui ai lu à voix haute le prologue, et j'ai lu l'oncle Christo Bay, j'ai tout de suite pensé à Christobald, et je me suis dit, ah oui, c'est Pierre Perret à tous les coups, tout ça. Et donc j'ai réécouté la chanson, ce qu'il ne faut jamais faire. Voilà, les chansons du passé doivent rester dans le passé, parce que c'est un peu cringe quand même. Il y a certaines paroles qui ont assez mal vécu. Alors, le tonton Cristobal, par exemple, il a le cul cousu de peso de lingot, parce qu'il est parti à l'autre bout du monde, et il a fait un peu fortune, mais bon, c'est plutôt un bad guy, quoi. Bref, je vous laisse aller réécouter cette chanson si le cœur vous en dit. Moi, ça n'a pas été un très bon voyage dans mon passé, hein. Je dis, ah ouais, c'était ça quand même les paroles? Ah oui, ok, bon, je ferme la porte de ça. Et donc cet oncle Christo Bay a fait fortune, enfin en tous les cas il veut nous léguer son héritage, et donc on part comme ça, la fleur au fusil sur son île des Seychelles, où le vieux bougre crèche depuis plus de 15 ans, et on va explorer cette île pour déjà retrouver le tonton, parce qu'il n'est pas à l'accueil quand on débarque, son héritage tant qu'à faire, et puis il est question d'une mystérieuse récompense. Et tout ça, il va falloir le faire dans un temps limite, 8 heures, parce que bon, déjà aux Seychelles, la nuit tombe tôt, et en plus, pas de bol, on vient aux Seychelles et il y a une tempête tropicale qui s'annonce. Donc, on va pas pouvoir traîner trop longtemps. Et donc, dans ces 8 heures, on va pouvoir faire plusieurs actions. Donc, comme je disais tout à l'heure, aller dans un lieu, explorer un endroit, combiner des cartes. Et à chaque fois qu'on fait une action, c'est 5 minutes. Donc, sachant qu'il y a 12 fois 5 minutes par heure et qu'il y a 8 heures, bon, ça fait quand même 96 actions possibles, ce qui est pas mal. Est-ce que vous avez eu le sentiment de manquer de temps ?
J'ai dit à mon compagnon, faut qu'on fasse le truc sérieusement, parce qu'il y a le jeu du mois.
Ah oui.
Et qu'il va falloir que j'en parle avec Mad et qu'on ait fait les choses correctement en suivant les règles. Sauf que lui, il aime bien tout regarder les cartes. Donc de temps en temps, il regardait sous la carte puis il disait « Non, là, il n'y a pas besoin d'y aller. »
Bon, je crois qu'il va mettre des commentaires aussi. En fait, on va exploser le compteur des commentaires, c'est nos familles qui vont écrire.
En disant « Arrêtez de nous afficher comme ça dans Proxy Jeux. » Donc, on n'a pas eu l'impression de manquer de temps, mais parce qu'on a un peu triché, en fait. On a un petit peu triché une fois ou deux, mais globalement, on est arrivé quand même à éviter des allers-retours incessants qui nous auraient fait perdre du temps. Et je pense qu'on n'était pas si mal, que même sans tricher, on serait arrivé plutôt bien à la fin, quoi.
Ok.
Et toi, tu as eu l'impression de...
Non, pas tant que ça. En fait, avant de commencer, on s'était dit, parce qu'on avait cru comprendre qu'on n'aurait pas le temps de faire tout ce qu'on voulait, qu'il fallait faire des choix. Et finalement, je trouvais qu'on était quand même assez large, que 96 actions, c'est presque 100. Bah, ça laisse quand même de la latitude. Et donc, sur le principe des combinaisons de cartes, en fait, il y a un système de symboles, de patterns qui concordent ou pas. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'usage aberrant ou illogique, quoi. Généralement, tu vas combiner la carte avec quelque chose qui fait sens. Je vais dire ça comme ça. Et puis, on retrouve cette filiation directe avec Crime Zoom. Crime Zoom, c'est ce jeu dans lequel on a une scène de crime au démarrage constituée de plusieurs cartes. Et puis, on choisit quelle carte retourner pour avoir des informations ou des éléments sur les indices qui sont présentés. Bon, ben voilà, on retrouve cette même idée avec cette image qui est constituée de plusieurs cartes et qu'on va retourner pour explorer. Et c'est là qu'intervient la notion de choix. Puisque comme on est en temps limité, potentiellement, on ne pourra pas tout voir. Si je veux parler des comparatifs avec des jeux de la même famille, donc voilà, il y a ce Crime Zoom que l'on retourne en fonction de ce qu'on a pu voir au verso. Il y a aussi un lien assez direct avec Carte Aventura, où là aussi, on va avoir un monde qui va se construire au fur et à mesure de l'aventure et des choix que l'on va faire, et les cartes vont comme ça s'étaler sur la table. Un autre point commun que j'ai trouvé aussi, c'est avec les animaux de Baker Street, où on a aussi ce système de cartes qui coïncide avec les loupes qui vont se reconstituer ou pas, et nous permettre d'aller chercher d'autres cartes. Je sais que c'est un jeu que tu connais bien et que tu apprécies.
Oui, j'avais pas vu le lien en effet, mais c'est vrai, tout à fait. Puis cette espèce d'histoire un peu linéaire aussi.
Parce que tu vas aussi récupérer des indices qui vont te mener à la solution de l'énigme, du mystère en tous les cas qui t'est proposé. Et puis tu as quelque chose d'un peu équivalent aussi dans Suspect. Alors il y a parfois des petites variantes, mais voilà, tu peux avoir des empreintes digitales qui vont matcher ou pas, avec des liens qui vont se faire ou pas. Ou une empreinte de chaussure, enfin, c'est des choses qu'on va retrouver aussi dans ces jeux, qui sont tous des jeux où on va chercher des indices, qu'on va essayer de combiner avec les informations qu'on a pu recueillir par ailleurs, et puis essayer de dénouer l'intrigue, quoi. En ce qui concerne les sensations de jeu que j'ai pu avoir, eh bien, j'ai retrouvé l'ambiance des point and click que j'aimais bien. Et finalement, les quatre images, lorsqu'elles forment le lieu, ça fait un petit peu comme un écran d'ordinateur, parce qu'il y a un petit liseré blanc tout autour, et on pourrait très bien se figurer quand on les met comme ça, côte à côte. Voilà, c'est la vision de l'ordinateur, enfin de l'écran, et puis on va changer de tableau pour aller sur l'autre carte. À un moment donné, il y a quand même pas mal de lieux différents, et on peut avoir ce sentiment d'être un petit peu perdu, un peu trop de choix possibles, une sorte de profusion de décors. On sait pas trop où donner de la tête, mais ça, tu l'as aussi dans les jeux vidéo, parce que à un instant T, bah, tu peux retourner à l'intérieur du magasin, ou dans la petite cour derrière, ou la rue qui passe devant, ou la, enfin, et en fait, ça donne une impression de monde assez ouvert, malgré tout, avec plein de possibilités. Quand on voit la taille de la boîte, qui est un petit format, hein, on a le sentiment que ça va être un petit jeu, mais finalement, il faut de la place sur la table pour tout étaler. Et peut-être qu'on peut avoir comme ça cette contradiction entre ce à quoi on s'attend de jouer et puis le fait d'en avoir plein sur la table. Est-ce que vous vous êtes senti submergé ?
Il y en a plein la table, ça c'est sûr, mais quand on joue à Suspect, t'en as plein la table aussi. Et Crime Zoom, c'est pareil, t'en as aussi un peu plein la table.
C'est vrai.
Ce qui fait que ça m'a pas gêné, et maintenant que tu le dis, cette impression de pouvoir aller partout, en effet, est très liée aux jeux vidéo où t'as oublié de prendre un truc, ah zut, je dois revenir 3 ou 4 tableaux précédemment pour aller récupérer tel machin ou tel bidule.
En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien prendre le temps d'observer les cartes. C'est-à-dire que tu peux très bien passer à côté de quelque chose, tu vois, un détail caché dans l'image, parce que comme on a une image en pixel art, la définition, est celle d'un pixel art, quoi. Enfin, c'est pas fou. Et ça facilite pas vraiment les choses pour trouver tous les détails. Mais moi, ça me dérange pas vraiment. Les cartes de départ, les 4 premières cartes, c'est le ponton où on accoste. Et si tu regardes un peu rapidement ce paysage, tu peux passer à côté de détails. Alors c'est pas trop spoilé parce que si vous commencez le jeu, c'est la première chose que vous allez voir. Je vais faire un micro spoil. Il y a un bateau qui est représenté et sur le bateau, il y a des petits trous. Et donc on a eu une discussion avant de retourner la carte parce que c'est le début, on est un petit peu frileux quoi, on sait que le temps va être contraint, tout ça, qu'on peut pas tout retourner, et donc on hésite à retourner tout de suite. Et puis on a eu un débat sur c'est des taches de rouille, c'est pas des taches de rouille, c'est autre chose. Enfin faut vraiment observer de façon très très attentive quoi.
Dans la règle, ils te disent que les premiers paysages, il faut justement tout regarder.
En tous les cas, c'est un bon conseil de retourner les premières cartes parce que c'est là que tu te rends compte que ce que tu pensais voir, c'était pas tout à fait ce que c'est en réalité. Ça te conduit à questionner les autres images que tu vas voir par la suite. En ce qui concerne la complexité du jeu, moi, j'ai pas trouvé que c'était d'une complexité folle. De toute façon, c'est annoncé comme un jeu familial, quoi. C'est à partir de 10 ans. Ouais, j'aurais peut-être aimé un peu plus de résistance. Voilà, c'est le premier. Voir s'il continue d'en faire et puis à quoi va ressembler la suite. Mais j'ai pas trouvé ça très compliqué. Tu me rejoins là-dessus ? Vous avez trouvé ça comment en termes de difficulté ?
Ah ouais, non, plutôt facile. Ouais. Y a une ou deux énigmes où on s'est un petit peu cassé la tête quand même. Mais c'est vraiment l'histoire qui m'intéresse, et comprendre l'histoire et qu'on me raconte l'histoire, que le jeu me raconte l'histoire. Le fait que ça soit pas très dur, ça m'a pas gêné du tout. Parce que c'est plutôt bien écrit.
En fait, quand tu parles de l'écriture, ça se veut être avoir un peu d'humour. Alors t'as des jeux de mots. Alors je suis pas contre le précaire. Hein. Je veux dire, je n'ai rien contre le précaire. Mais bon, t'as des jeux de mots du type le jerrycan d'essence n'est pas bidon. Bon, franchement, c'est pas fou, quoi. Je trouvais que ça le faisait pas. Moi, ce que j'aurais aimé, tu vois, c'est des combinaisons un petit peu loufoques parfois. Alors, je parlais tout à l'heure du jeu Day of the Tentacle. Alors, pour ceux qui connaissent pas trop le jeu, ça se passe sur 3 époques différentes. Le passé, le présent et le futur. Et ce que tu vas faire dans le passé va avoir des répercussions sur le présent et sur le futur. Et le personnage qui est dans le passé, eh bien, les gens du passé cherchent à déterminer ce que sera le drapeau américain. Et en fait, tu piques les plans de fabrication du drapeau américain pour faire un drapeau en forme de tentacule, hein, c'est Day of the Tentacle, c'est le jour de la tentacule, parce que dans le futur, les tentacules ont pris le pouvoir. Et en fait, en changeant, les plans, les patrons du drapeau en patron de tentacule, eh bien, le personnage qui est dans le futur va pouvoir shipper le drapeau américain qui a un drapeau en forme de tentacule pour se déguiser en tentacule. Est-ce que tu vois un peu okay. l'idée?
Je vois.
Donc, je vois. On est dans le loufoque pur, quoi. Ou alors un chat qui va passer sous une ligne de peinture blanche, qui va avoir une peinture. Et voilà, on va repeindre une palissade. Le chat qui va passer sous la palissade, du coup, il va avoir une ligne de peinture blanche sur le dos. Et puis, il va passer pour un putois et il va sentir mauvais. Enfin, voilà. tu vois un peu okay. le genre.
Et ben, oui, je vois l'humour anglais, quoi.
Donc, j'aurais bien aimé. Un petit peu, tu vois, ce type d'humour plutôt que les jeux de mots. Ben voilà, j'aime bien ce genre de... Britannique, tu dis, c'est de l'humour anglais, c'est ça?
Tu vois, je verrais bien les Monty Python donner un coup de pinceau sur le chat, quoi.
Ouais, tout à fait.
Et ouais, c'est aussi le genre d'humour auquel je suis assez sensible. Cet humour absurde un peu et de situation.
Donc là, je suis en train de passer au truc peut-être un peu moins cool que j'ai trouvé dans le jeu. Il y avait la gestion du sac avec les quatre places pour les objets lourds et puis les objets légers ou les lettres, les parchemins que tu peux avoir à profusion dans tes poches qui prennent pas de place dans le sac. Voilà, tu peux laisser un objet lourd au sol, quel que soit le lieu, mais faut aller le récupérer. Ou en fait, le fait d'utiliser le sac ou pas, finalement, j'ai pas trouvé la gestion hyper fluide en fait. Et dans les jeux de point and click dont je parle depuis le début, bien souvent t'as un inventaire illimité, tu vois, tu récupères les objets, ça va dans ton sac et puis t'as pas de choix à faire. C'est un petit peu aussi comme dans le jeu de rôle Toons où tu incarnes des personnages de dessins animés. Il y a le sac à malice, le bag of many things, dans lequel tu vas aller piocher pour ressortir un objet dont tu as besoin pendant la partie, pendant le scénario, en sachant que avant de piocher la main dans le sac, tu tires un dé et il y a une table, voilà, des choses que tu vas ressortir et en fonction du chiffre que tu as, enfin du nombre que tu obtiens, peut-être tu avais besoin d'une pince monseigneur, puis tu vas sortir un coffre-fort de ton sac, quoi.
Ah, ça peut être très drôle.
Ce qui est toujours très cool. Voilà, j'ai pas été fan du matériel, quoi.
Oui, ah bah ça c'est pareil. Le coup du sac à dos, surtout clairement, il y a des trucs qui objectivement ne rentreraient jamais dans un sac à dos.
Oui, de toute façon, ouais.
À mon sens, c'était un peu une manière artificielle de nous faire perdre du temps.
Oui.
Alors qu'il suffisait de nous donner moins de temps au départ, et puis on a joué un peu aux imbéciles avec ça en disant bah là, cet objet là. Il n'est pas dans le sac, puisqu'on s'en sert.
On l'a dans les mains.
Bah voilà.
Puis comme on est à deux à jouer, on peut en porter au moins deux chacun.
Bah voilà. Bon, après, je pense que c'est le genre de jeu qui se prête à des adaptations de règles en fonction des envies des joueurs et des joueuses. Hein.
Ouais. Et d'ailleurs, en tous les cas, c'est pas le plus, je vais utiliser le terme, le plus catastrophique dans la gestion du matériel. Je pense que ce qui est un peu, qui gâche un peu le plaisir, c'est la gestion du temps. Parce que le curseur à déplacer autour de la carte, enfin, t'as dit que vous l'avez utilisé, cette carte, ça ne fonctionne pas, en fait. Ça ne tient pas. Et ça, on s'en est rendu assez vite parce que, bah, t'as des toutes petites cases et puis l'espèce de trombone, enfin c'est franchement, nous on n'a pas su s'en servir. Et donc ce que j'ai fait, c'est que très vite j'ai pris une feuille de papier à carreaux. De toute façon, j'en ai toujours sur moi. Des fois, quelqu'un voudrait jouer à Pipo Pipette avec moi, tu vois. donc j'avais ma feuille à carreaux. J'ai fait un rectangle de 8x12, tu vois. Et à chaque fois qu'on faisait une action, je faisais une croix dans la case, quoi. Enfin, on n'était pas à se dire « Ah mince, le curseur, ah bah il a bougé, il n'est pas tout à fait là, ah bah il est tombé, il tient pas. » Bon, visiblement, vous avez pu jouer avec.
J'ai fait confiance à mon compagnon sur la gestion du truc, donc je sais pas trop si par moment il l'a pas redescendu ou ce qu'il en a fait. C'est lui qui avait la gestion du machin. Il a pas trop râlé, donc je pense qu'il...
Ouais, mais il est formidable, il gère.
Il gère. Ouais, il a géré la gestion du trombone comme un chef.
Si je peux me permettre ce conseil, feuille à carreaux, stylo, rectangle de 8x12, et c'est parti, quoi. Et puis, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a pris un petit personnage, une petite figurine Lego, pour signifier le lieu dans lequel notre personnage était. Tu vois, pour se repérer. Ah ben, on est sur la plage, ah ben, on est sur le ponton. Voilà. Petit conseil chez vous.
Oui, puis c'est super immersif, du coup.
On a pris cette, cette liberté-là, cette adaptation, cette petite adaptation-là. Et puis, moi, comme je disais, moi, j'aime beaucoup les cartes et les paysages qui se forment avec les quatre cartes, en sachant que j'écoutais une interview de Stéphane Anquetil. Il disait que il y avait toute une réflexion sur où placer les indices sur chacune des cartes, en sachant que le milieu constitué par les quatre cartes, c'est-à-dire le coin en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite de chacune des cartes, en fait, qui constitue le centre de l'image, eh bien, on pouvait pas mettre d'indice à cet endroit-là qui est pourtant ce qu'on va peut-être regarder en premier quand on voit la carte, parce que avec les arrondis des bords des cartes, ça fait un trou à ce moment-là, à cet endroit-là. Et donc, il y avait toute une réflexion avec l'illustrateur sur où est-ce qu'on va mettre les indices, quoi. Et après, j'ai vu que toute la faune qui était représentée sur les cartes, c'était la vraie faune que l'on trouve aux Seychelles, quoi. Il y a une véracité scientifique sur ce qu'on va trouver sur les cartes et les animaux que l'on va rencontrer.
Ah, ça, c'est chouette.
Ouais, c'est sympa. En tous les cas, si j'ai bien compris et si le jeu fonctionne, ce sera le premier d'une gamme. Et si j'ai bien aussi, si mes sources sont fiables, si les rumeurs sont exactes, s'il y en a un prochain, ça se passerait dans un manoir, justement un peu aussi en hommage au manoir de Mortevielle dont j'ai parlé tout à l'heure, tu sais, qui est un des point and click de départ, quoi, un des premiers qui a existé, qui était en fait hyper dur, quoi, parce que sans internet, sans Minitel aussi, à mon avis, à l'époque, enfin, les gens s'en sortaient pas, quoi, et lâchaient l'affaire, en fait. Et apparemment, dans le prochain épisode, il y aura la possibilité d'interagir avec les personnages que l'on va rencontrer dans le jeu. Par contre, ce sera probablement pas en pixels, parce que visiblement, c'était hyper onéreux de faire ces images avec cette technique-là. Et puis, je crois que l'illustrateur qui s'est occupé de cette première boîte, en fait, il est sur d'autres projets, hein, notamment des projets avec les jeux vidéo, quoi.
Du coup, le nom...
Oui, alors, je sais.
Le nom sera moins pertinent.
Après, ce sont des rumeurs. Voilà, je me permets de lancer quelques rumeurs. En fait, j'ai pas mal écouté et puis lu ce qui se disait sur le jeu, et c'est ce qui m'avait semblé, en tout cas c'est ce que j'ai mis dans mes notes. Et puis si c'est sur internet, c'est que ça doit être vrai.
Complètement, c'est toujours vrai ce qu'on trouve sur internet. Mais l'histoire d'un deuxième, enfin déjà que ça soit une gamme, ça je l'avais entendu aussi, et l'idée du manoir, il me semble que je l'avais entendu aussi, donc on a peut-être les mêmes sources.
Hein. Ouais, c'est ça. On traîne peut-être dans les mêmes endroits.
Si on y traîne toutes les deux, c'est forcément des endroits bien.
à voir.
Et vous aviez bien fini votre histoire sur l'île aux Forbans ?
Ah, tu veux savoir comment on s'en est sorti ?
Ouais.
Je pense qu'on s'en est bien sorti. Je crois qu'on a eu la fin qui convenait le mieux.
Ouais, nous aussi. Et est-ce que ça t'a donné envie d'y rejouer pour voir les autres pistes que tu aurais pu ne pas... parce que c'est ce qui est dit aussi dans le jeu, que tu peux rejouer pour voir... les autres pistes que tu n'aurais pas...
suivies, c'est ça, qu'on n'aurait pas suivies. Ouais. Moi, j'ai le sentiment d'avoir vu beaucoup de choses quand même. Tu sais, quand on parlait de contraintes de temps et peut-être la frustration de ne pas voir tout, j'ai pas eu ce sentiment-là, en fait. Alors, peut-être qu'on a mal compté nos pistes, nous aussi. Enfin, je pensais que j'étais assez rigoureuse quand même là-dessus. Mais j'ai eu l'impression d'en voir beaucoup. Ça ne m'a pas donné envie de retourner voir plus, quoi.
Nous, pareil. Puis on a quand même lu les différentes fins possibles.
Oui, ça, par contre, j'ai lu les... en fait, voilà, on s'est dit, ah, mais oui, bien sûr. Enfin, on va surtout pas dire les fins, quoi. Ah, comment en parler sans en dire trop ? Non, on a fait les bons choix.
Par rapport à Cartaventura, par exemple, où là, t'as envie de rejouer pour avoir les différentes fins. Parce que vraiment, les choix, quand tu fais un choix, ça t'en bloque plein d'autres.
Oui, c'est ça.
J'ai pas eu l'impression d'avoir envie... que le jeu te donne... te permettait d'y rejouer immédiatement, en tout cas.
Oui, c'est ça. Quand tu prends un chemin, ça te conduit naturellement... c'est difficile d'en sortir, quoi. Alors que là, c'est moins contraignant. En tous les cas, si je devais exprimer un avis final, il est vraiment plutôt positif. J'ai passé un bon moment en famille. J'ai envie de l'offrir à mes neveux, à mes nièces. Ce sont aussi des adeptes de ce genre de jeu d'enquête. Alors enquête, voilà, trouver des objets, les combiner, résoudre des mystères, tout ça. C'est ce que je mets derrière le mot enquête là tout de suite. J'aurais aimé un poil de fantaisie en plus, ça c'est vrai. Un peu plus de résistance aussi, on en a parlé. Mais en tous les cas, voilà, si ça continue, c'est avec plaisir que je ferai les suivants. Et je crois que chez moi, on me suivra là-dessus quoi. C'est un jeu de Stéphane Anquetil. Illustration Chris Alliant chez Aurora Games. Âge recommandé 10 ans et plus pour des parties de 90 minutes.
Merci beaucoup, Matt, pour cette explication de jeu.
On arrive au bout. Au bout de cette émission. J'ai bien aimé passer ce moment avec toi, parler de princesse rebelle et de tonton un peu Grinch. Je me demande d'ailleurs un mash-up entre les deux, ce que ça pourrait donner. Non, j'arrête de... Allez, mon imagination arrête de partir comme ça sur des chemins tortueux. Eh bien, que vous ayez aimé notre émission, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un i et jeu avec un x.
Vous pouvez également nous contacter sur X, sur Facebook, sur Instagram, mais également sur Discord. Pensez à partager nos émissions sur les réseaux sociaux et surtout, parlez de nous autour de vous.
Si vous avez aimé ce qu'on fait, vous pouvez nous aider financièrement. Pour ça, vous pouvez passer par PayPal. Mais bon, on sait que voilà, tous les sous ne nous reviennent pas exactement. Enfin, voilà, c'est un peu nébuleux. On vous conseille d'utiliser le virement bancaire à l'association ProxyJeux. Contactez-nous pour qu'on vous donne nos références bancaires.
Le mois prochain, ce sont les vacances d'été. Et la semaine prochaine, c'est un nouveau dossier. À très bientôt et
jouez bien.